Merci Denis Bonnec. Thomas Hugues.
Vous avez dû entendre certaines personnes dire qu'il serait dangereux de plonger plus profond. Dangereux parce que nous n'avons aucune idée précise sur les conséquences physiologiques pour les apnéistes.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur RTL.
J'ai analysé toutes les données obtenues à la dernière plongée de Mayol. Et il s'avère qu'à cette profondeur, il est physiologiquement impossible que le sang retienne assez d'oxygène pour remonter à la surface. Il ne faut pas tenter de battre le record de Jacques.
Extrait du Grand Bleu, plonger, découvrir ce qui se trouve dans ses profondeurs. C'est la promesse d'un voyage unique et c'est François Sarano qui nous emmène. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour Sidonie, bonjour Thomas.
Heureux de vous retrouver.
Océanologue, plongeur, fondateur de l'association Longitude 181, la voix de l'océan. Vous êtes d'ailleurs basé à Valence, c'est ça, c'est dans la Drôme.
Oui, oui.
Très belle région.
Au bord de la mer. Hein.
Oui, il y a quelques kilomètres pour y aller quand même.
Au bord du Rhône, et les fleuves sont les racines de la mer. Par conséquent, chacun d'entre nous, on est toujours au bord de la mer.
En fait, si vous êtes un sociétaire de la curiosité, c'est que vous aimez raconter ce que vous voyez lors de vos plongées. Vous aimez raconter pour qu'on aime cette nature, qu'on puisse la protéger et se réconcilier aussi avec la vie sauvage. Pourquoi vous avez remarqué que les humains ont peur de la vie sauvage ?
Les humains, ils vivent dans les villes aujourd'hui. Et puis, ils sont perdus dans leur smartphone, dans le monde virtuel. Il est urgent de se reconnecter à cette nature qui nous apporte beaucoup de bien-être, de paix. Parce que tout d'un coup, elle nous ramène à un rythme vrai, celui de notre physique. Et non pas quelque chose qui nous fait perdre la tête avec des informations qui arrivent de partout.
Mais elle nous fait peur, cette vie sauvage. Par exemple, on va plonger avec vous tout de suite. On va découvrir un animal qui, on peut le dire, incarne la frousse humaine. Je ne sais pas vous, Thomas, mais le crocodile.
Oui, c'est pas mal, le crocodile.
Nous sommes en novembre 1987, dans le nord de l'Australie, le Cap York. Avec qui travaillez-vous à cette époque ?
Alors, j'ai la chance d'être sur la Calypso, du commandant Cousteau, avec Falco, avec tous les grands plongeurs qui m'ont fait rêver, moi, quand j'étais petit. Et je suis chef de mission, j'organise cette mission en Australie et je découvre qu'il y a beaucoup de crocodiles de mer. Pas les crocodiles africains, des grands crocodiles.
Les grands.
Des crocodiles qui peuvent traverser les mers, qui peuvent aller de l'Australie aux îles Salomon et qui peuvent faire jusqu'à 7 mètres. Et là, je me dis, waouh, belle opportunité.
Oui, c'est ça. Bonjour monsieur, j'ai hâte de vous rencontrer.
Belle opportunité. Et oui. Quand, effectivement, je prépare l'expédition avec mon épouse Véronique, on est là-bas en les premiers, je demande aux rangers, aux aborigènes, et la réponse est, vous allez vous faire manger ! Impossible !
Et ça vous plaît, ça ?
Oui, mais je m'étonne, parce que sur quelle expérience vous basez-vous pour dire que c'est impossible ? Avez-vous essayé ? Ah ben, je risque pas d'essayer, parce que sinon, je vais me faire manger. Et là, avec mon ami Michel Deloire, nous avons passé 1h10
c'est avec précis.
Un grand crocodile de mer. C'était la première fois au monde. Nous avons eu l'audace de briser le tabou et nous avons découvert un animal formidable.
Comment ça se passe, la rencontre ? Donc j'imagine, vous êtes sur un bateau, vous plongez. Comment vous l'avez repéré déjà, ce crocodile ? Comment vous savez où aller ?
Alors, les guides australiens nous avaient dit que au nord du côté de la rivière Jardine, qui se jette donc dans le détroit de Torres, eh bien, il y avait beaucoup de crocodiles. Nous allons là-bas avec la Calypso, avec les zodiaques, et tout d'un coup, au loin, on voit un crocodile qui se glisse à l'eau depuis la berge, et c'est à ce moment-là que nous mettons à l'eau avec Michel, et nous arrivons dans l'eau trouble. D'abord, on le voit pas. On cherche. Ouf, par chance, je découvre un python et je me dis, si on trouve pas le crocodile, au moins on aura des images de ce python. Donc je danse un peu avec un gros python. Mmh. Et au moment où Michel me dit, écarte-toi un peu, je vais faire des gros plans, je me recule et je pose la main sur le crocodile.
Il a peur ? Vous avez peur ? Il se passe quoi à ce moment-là ?
Eh bien, effectivement, Michel arrive en face, le crocodile prend peur et tout d'un coup, je vois une palme, la caméra, le masque et Michel qui explose parce que nous avons fait une grave erreur, nous l'avons pris en tenaille et nous lui avons fait peur. Mais après, nous avons la chance de le retrouver dans une eau beaucoup plus profonde. Et là, au calme, nous l'approchons. Et à l'époque, on caressait, c'est une erreur, mais j'ai même eu la chance de le caresser. Et nous sommes restés les yeux dans les yeux, comme ça. La peau est très... C'est étonnant, la peau est très douce, un peu élastique. C'est une marqueterie noire et jaune. Qui est fascinante. Et puis, cette dentition mal plantée, cette gueule incroyable, tout ça contribue à rendre cet animal magique et bouleversant, et la rencontre apaisante et sereine.
Et il ne vous a pas croqué, François Sarano, on est très contents. Vous publiez avec Coralie Chaube, réconcilier les hommes avec la vie sauvage, c'est aux éditions Actes Sud. Vous allez nous raconter une autre aventure maintenant exceptionnelle.
Avec qui on va plonger?
Je sais pas, il y a soit une Raymanta, soit un grand requin blanc. Vous voulez quoi pour...
D'abord le grand requin blanc.
Ah, d'accord, vous êtes comme ça. Direction l'Afrique du Sud, les années 2000. Restez avec nous les curieux.
Nous ne nous enfonçons plus. Non, c'est heureux. Il y a des limites au-delà desquelles l'homme, en dépit de ses efforts, ne saurait survivre. Nous les avons dépassées de plus de 1500 mètres. Aucun homme n'a jamais atteint de semblable profondeur.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière.
Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir.
Sidonie Bonnec.
Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
Thomas Hugues.
Tenez-vous prêt.
Extrait du film 20 000 lieues sous les mers, ça ne rajeunit pas, ça date de 1955. Et nous, dans la curiosité, on apprend à aimer les animaux sauvages, les animaux des profondeurs, avec notre invité François Sarano, océanologue, plongeur, fondateur de l'association Longitude 181, la voix de l'océan. Vous êtes basé à Valence, dans la Drôme. On discutait pendant l'interruption de cette taille dingue. Vous disiez crocodile de 7 mètres. Donc, Bastien Robin, l'un des gens des émissions, disait, mais ça fait la longueur du studio. En fait, comment ils deviennent aussi grands, ces animaux? Ils s'arrêtent jamais de grandir, c'est ça?
Voilà, ils grandissent jusqu'à leur mort. Évidemment, ça se ralentit beaucoup lorsqu'ils sont très vieux, mais autrefois où il y avait des individus, ils n'étaient pas chassés, donc il y en avait beaucoup. Et il y avait aussi des géants parmi ces vieux individus, et alors on trouvait des individus gigantesques, et le plus grand qui a été mesuré, c'était 7 mètres.
C'est vrai aussi pour les requins, par exemple ?
C'est vrai pour les requins, c'est vrai pour la plupart des poissons. Mm-hmm. Et donc, contrairement à nous, les mammifères qui arrêtons notre croissance rapidement, eh bien eux grandissent tout le temps.
François Sarano, maintenant on part avec vous plonger la découverte d'un grand requin blanc. C'est une première en fait, c'était une première pour vous, c'était un défi. Grand requin blanc sans cage, c'est dans les années 2000 en Afrique du Sud. Pourquoi personne ne l'avait fait avant?
Alors il y avait André Hartmann qui avait fait ça, mais j'ai eu la chance de diriger une expédition qui était la première, qui allait filmer le grand requin blanc librement. Et une chose, survivre sur le territoire du grand blanc sans cage, autre chose, arriver à ramener des images, c'est-à-dire à coordonner une équipe avec un animal qui est imprévisible, avec lequel personne n'avait véritablement plongé. Et donc là encore, il fallait briser un tabou et aller au-delà des sentiers battus.
Parce qu'il faisait peur, c'est ça? C'est un animal qui était vu comme très dangereux?
Les dents de la mer.
Ouais. Bah oui, voilà.
Les dents de la mer, imprévisibles, et puis surtout avec une réputation qui était terrible. Le film de Spielberg est un merveilleux film, mais a laissé des traces terribles parce que, à force d'être répété, cette histoire des dents de la mer a fait un paradigme qui remplit notre culture et qui dit le requin est un mangeur d'hommes. Mmh. Or, ça n'est pas ça. Et j'ai eu l'occasion de plonger des dizaines de fois. Et, après cette première avec André Hartmann et Yves Lefebvre et Christian Pétron en Afrique du Sud, et à chaque fois, la rencontre, c'est la sérénité et la paix. Lorsque, tout d'un coup, cet animal qui est extrêmement méfiant, difficile à approcher, vous offre une rencontre, vous offre un moment, alors, posé sur la nageoire, l'œil contre œil, c'est extraordinaire, on est en paix, on est en joie, tout est calme, serein.
François Sarano, comment vous communiquez avec ce grand requin blanc? C'est les mouvements, comment vous faites?
Alors, discrétion, respect, bienveillance. En deux mots, le requin est curieux un instant, mais quand il voit qu'il n'a rien à gagner, pas de nourriture, il a tendance à s'en aller. Et le moindre regard trop intense, le moindre mouvement trop vif, lui fait peur. Par conséquent, tout vient de nous, tout est entre nos mains. Et ce qui marche, c'est le respect, la bienveillance, l'humilité, surtout, surtout, la patience. Pour qu'enfin, vous puissiez le côtoyer un instant. Et là, c'est un moment de bonheur infini.
Vous avez nagé épaule contre nageoire, c'est ça, avec ce grand requin blanc? C'est un moment de plaisir pour lui et pour vous?
Alors, je sais pas si c'est du plaisir pour lui, mais pour moi, c'est fou. Et le moment le plus fou que nous ayons vécu, c'est au cours du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouseau. Et là, pendant une minute et demie, ça a été un moment exceptionnel. Qui encore une fois, qui vous met en paix, qui vous donne envie de communiquer aux autres cette joie intense. Le grand requin blanc, il dit deux choses. Il dit la première... Allez à la rencontre de ceux que vous ne connaissez pas, sur lesquels on dit des tas de choses sans jamais être allé les rencontrer. Et ce qui est valable pour les requins, c'est valable pour tous ceux qui ont des cultures, des religions, des traditions différentes. Il faut aller les rencontrer. Et on découvre des choses extraordinaires, des gens extraordinaires, des cultures extraordinaires. Le requin, c'est la même chose. Et après ça, cette paix qui vous est offerte, elle vous ouvre sur les autres parce que vous avez envie de hurler votre joie et de la communiquer, de l'offrir aux autres. C'est apaisant, cette vie sauvage. Elle fait tomber toutes les barrières que nous nous mettons nous-mêmes. C'est nos idées reçues, nos a priori qui sont des barrières. La vie sauvage nous ouvre sur le monde.
Quel merveilleux message, François Sarano. On le retrouve dans ce livre, écrit par Coralie Schaub, « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ». C'est publié aux éditions Actes Sud, de collection Domaine du Possible. Donc on a plongé avec un crocodile des mers. Déjà, j'ai appris que ça existait, les crocodiles des mers, avec un grand requin blanc à l'instant. Voici une raie manta.
Dans le métier, elle est appelée le diable des mers.
Bah oui,
tout
mais
un
c'est
programme.
Sûrement une mauvaise réputation, ça aussi. Elle s'approche, la raie manta. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Ça alors, on est sorti de son anémone.
Eh oui, je sais, c'est étonnant.
Martin, c'est ça?
Marin.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu es poisson-clown? T'es un marin alors? Raconte-nous une blague.
En fait, c'est un préjugé absolument sans fondement. Les poissons-clowns ne sont pas particulièrement drôles. C'est l'histoire d'un mollusque. Un mollusque qui marche. Enfin, je veux dire, il marche pas, il nage plutôt. Non, en fait, il bouge pas. Le mollusque ne bouge pas. Il fait du surplace. Et là, il y a un concombre de mer qui, lui... Non, je me trompe. C'est l'histoire d'un bar...
Thomas Hugues.
Et d'une dorade.
Sidonie Bonnec.
Extrait du Monde de Nemo. C'est vrai qu'on en a plein des préjugés sur la nature, sur la vie sauvage. Heureusement, François Sarano vient régulièrement nous voir et nous porter sa bonne parole et vos aventures extraordinaires parce que vous plongez depuis des décennies dans toutes les eaux du monde. Vous allez nager avec les grands requins blancs, avec les dauphins, les cachalots. Vous avez même passé 1h10 très précisément parce que c'est quand même quelqu'un d'assez pris avec un grand crocodile des mers. Non, mais vous avez une vie extraordinaire et vous partagez ça avec nous. Maintenant, on va faire des câlins avec une raie manta. Alors moi, je suis d'accord, mais j'ai juste une petite question avant. Il paraît qu'on l'appelle le diable des mers. Est-ce que c'est justifié?
Non, évidemment, ça n'est pas justifié. Peut-être que cette légende vient de ce que autrefois les marins, les pêcheurs d'éponges qui voyaient apparaître ces animaux gigantesques, la plus grande raie manta qu'on ait pêchée faisait 8 mètres d'envergure. Oui, 8 mètres d'envergure.
C'est notre
au Pérou.
Studio.
C'est gigantesque. Ses ailes sont incroyables, noires. Et de temps en temps, elles sautent hors de l'eau.
On parle d'ailes, c'est ça? C'est pas des nageoires? Elles sont des ailes?
Ce sont des nageoires, mais la raie manta a la grâce de l'albatros et la précision de l'hirondelle dans ses cabrioles. Et c'est extraordinaire parce que l'eau qui nous freine semble au contraire la propulser. Elle, à peine bouge-t-elle, qu'elle est déjà loin. Mais quand elle vient, alors c'est encore plus beau. Alors, lorsqu'elle arrive face à vous, gueule ouverte, parce qu'elle filtre le plancton, alors vous ne bougez plus, vous évitez les moindres bulles. Habituellement, elle s'éloigne. Mais un jour, c'était à Sumatra...
1989, c'est ça ?
1989, la mer des Mentawai sur Stortrif, je m'en souviens très bien, petit matin, j'étais parti plonger avant le travail, c'est-à-dire avant la plongée, pour le plaisir. Ouais. Elle arrive, et là je me dis, mais faut pas bouger. Et elle vient, elle s'approche, et tout d'un coup elle se met à la verticale, et elle présente son ventre immaculé. Je me dis, je vais la caresser. Encore une fois, faut plus caresser, hein. Mais autrefois, c'était comme ça. Je la caresse et tout d'un coup, elle bascule en arrière, elle fait un looping, elle revient se présenter face à moi et je la caresse à nouveau. Et pendant toute la plongée, et elle a été longue parce que j'étais dans 20 mètres d'eau, elle est revenue inlassablement pour se faire caresser. Et lorsqu'à bout d'air, j'avais plus d'air, à l'époque, on avait des réserves, j'avais tiré la réserve, j'avais plus rien du tout, j'étais obligé de monter. Ouais. Elle m'a accompagné et au dernier moment, elle m'a enveloppé dans ses ailes immenses, comme si elle voulait que je reste. Et puis après, elle a fait deux cabrioles et puis elle est disparue dans le bleu. Mais c'est bouleversant et ça pose beaucoup de questions. D'abord, toutes les raies mantas ne font pas ça. Mais ça veut dire qu'il y a des individualités, des personnalités. Ça veut dire aussi que peut-être cette raie manta est un individu plus curieux que les autres. Le Marco Polo des raies. Mais oui,
Est-ce qu'il y a une notion, pardon de vous interrompre François Sarano, est-ce qu'il y a une notion d'ambassadeur? On emploie souvent ce mot pour parler des espèces marines. Est-ce que vous pensez que ça existe?
Alors, je dirais pas ambassadeur, parce que quand je suis ambassadeur, je représente mon groupe, ma nation, ma population. Oui. En revanche, je suis sûr qu'il y a des individus qui sont plus curieux les uns que les autres, et qui ont envie de découvrir, qui ne se contentent pas de leur monde propre, de ce qui leur est strictement nécessaire pour survivre. Ils vont fouiller ailleurs, ils vont chercher, ils vont explorer. Alors, chez les cachalots, on le sait bien, chez les dauphins, on en connaît beaucoup, Mais on n'a pas le droit de s'interdire de penser que chez les requins, chez les raimentas, c'est la même chose. Mmh. Et en tout cas, nombre de plongeurs ont constaté que certains d'entre eux, différents des autres, venaient plus volontiers au contact, inspecter et rester plus longtemps. Cette raie que j'avais appelée la raie amoureuse est de celle-là.
Oui. Merci beaucoup, oh François.
Oh non, vous pouvez pas nous faire ça. Non, ça je regarde Coralie Lutinier. Je regarde Coralie Lutinier. Parce que c'est notre productrice, mais elle veut pas nous donner du temps en plus. Bah, vous reviendrez, François Sarano, c'est promis, pour nous parler de l'océan et pour nous parler de ses rencontres avec la nature. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François Sarano. Vous êtes, je rappelle, le fondateur de l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan. Et vous publiez avec Coralie Chaube, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage chez Actes Sud. Merci, à très bientôt, on vous attend.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.